Jacques Le Breton est certainement l'un des hommes les plus extraordinaires de notre temps. Il a su remplir sa vie bien qu'il n'ait pas d'avant-bras et qu'il soit aveugle. Comment se déplacer, comment vivre quand on est sans yeux et sans mains? Il a raconté sa vie dans un ouvrage bouleversant qu'il a publié en 1966 et qui vient d'être réédité. Marié, père de famille, il n'a jamais vu sa femme et ses enfants et n'a pour ainsi dire jamais pu les tenir dans ses bras. Il est interviewé chez lui à Paris par Marcel Brisebois.
Jacques Le Breton, vous n'êtes pas né handicapé, vous êtes devenu handicapé. Voulez-vous nous dire comment cela est arrivé?
Ah, c'est au cours de la guerre 39-45, à la bataille de l'Alamein. J'ai été blessé par l'explosion d'une grenade. Et évidemment, ça n'a pas été une grande joie.
Oui, vous me dites les choses un peu brièvement. J'aimerais vous dire comment, justement, cette grenade a pu exploser. Donnez un peu plus
bien de détails. On venait de nous préciser que les Allemands s'étaient repliés. Et on nous a demandé de préparer nos affaires pour faire un déplacement. Et alors, j'ai vu ma caisse de grenades qui était là. J'ai pensé qu'il était prudent de les désamorcer. Et tout en bavardant avec les copains, j'ai commencé à je me suis mis au travail. Et alors, à ce moment-là, un copain à ma gauche a pris une grenade dans la caisse. Pourquoi l'a-t-il prise? Je ne le saurai sans doute jamais. Il l'a dégoupillée. Pourquoi l'a-t-il dégoupillée? Je me le demande encore. Il a pris peur et quand il m'a vu là auprès de lui, il m'a tendu la grenade. Je l'ai prise. Quand je l'ai eu dans les mains, j'ai vu que la mort s'était tuée et qu'elle allait sauter. J'ai jeté un coup d'œil, des copains à droite, à gauche, elle va sauter, paf, et c'est fini. La nuit est tombée d'un seul coup et ça fait 40 ans que ça dure.
Vous aviez quel âge?
J'avais 20 ans, 21 ans, 3 mois plus tard.
20 ans.
Ouais.
20 ans, vous êtes aveugle, vous avez perdu les deux avant-bras. Vous vous en êtes pas rendu compte sur le coup?
Sur le coup, absolument pas. J'ai pensé, au bout de 15 jours, j'ai découvert que quand on m'enlevait le pansement du visage, je ne voyais pas plus clair que quand je l'avais. Ça n'était donc pas le pansement qui m'empêchait de voir. C'était donc plus du sang. Au bout de 15 jours, on n'en est plus là. Est-ce que par hasard, mes yeux étaient atteints? Et vous savez, il est dans la nature humaine d'espérer. Je me suis cramponné à l'espoir d'une opération chirurgicale qui me rendrait la vue. Ça allait de soi. Et puis, un beau jour, j'ai découvert que cette cécité se prolongeait, que l'on ne me parlait pas d'intervention chirurgicale. Et puis, un beau jour, j'ai découvert que la cécité, c'était une broutille, qu'il y avait quelque chose de beaucoup plus grave. J'étais aussi amputé des mains.
Et ça a pris combien de temps, justement, avant de vous rendre compte de tout ça?
Comment?
Ça a pris combien de temps avant de vous rendre compte de...
Je me suis rendu compte que j'avais plus de mains au bout de 4 mois.
Pris 4 mois. Donc pendant 4 mois, vous avez vécu...
Sans mes mains.
Sans vos mains, mais pensant les avoir.
Et sans le savoir. Au pansement, je provoquais presque l'infirmière. Faites attention, vous me faites mal quand vous me frottez sur le petit doigt. Et quand l'infirmière entendait ça, elle dit, ma parole, quand il va apprendre la vérité, qu'est-ce que ça va être?
Et quand vous avez appris la vérité, justement, qu'est-ce que ça a été?
Je m'en suis rendu compte tout seul. L'idée m'est venue un soir, il était 11h, minuit peut-être, et si j'étais amputé de mes mains? Jamais la question ne m'était venue à l'esprit. Et il y avait 4 mois qui s'étaient faits. Alors, à tâtons, dans la nuit, j'ai cherché à savoir. J'ai porté l'avant-bras gauche au coude droit, j'ai dit, tiens, voilà le pansement, au-dessus, et à gauche. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai, je me suis trompé, mes mains, je les sens. Je me suis trompé. On nierait l'évidence. Et puis j'ai dormi là-dessus. Et puis le lendemain, la vérité, elle était là, tout crue. Alors j'ai biaisé, parce qu'une vérité comme ça, on ne veut pas la voir en face. On veut se convaincre qu'on s'est trompé. Alors, au pansement, je dis à l'infirmière, quand est-ce que vous croyez que je pourrais ouvrir la main? Et l'infirmière, tout d'un coup, éprouvait le besoin d'aller changer de compresse. Elle éprouvait un prétexte pour ne rien dire. Le silence est quelquefois le témoignage de l'amitié. Souvent, on m'a demandé qu'est-ce qu'il faut dire aux malades. Oh, j'ai dit, taisez-vous. Tous les mots sont tellement en dessous de ce qu'il faudrait dire. Et vous savez, je reste très marqué quand le soir, le lendemain du jour où j'ai appris que je n'avais plus de main, l'infirmière s'approche et dit, qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas? Et ça va. J'avais pas besoin de lui en dire plus, elle a pris une chaise, s'est assise à côté de moi, elle a posé sa main sur le creux de mon bras, comme ça, elle dit, qu'est-ce qu'il y a qui va pas? Oh, j'ai appris que j'avais plus de main. Elle n'a rien dit. Elle s'est contentée de... Sa main s'est crispée sur mon bras, quoi. Et c'est tout. C'est tout et c'est encore ce qu'il y a de mieux.
Et vous, est-ce que vous avez cru que la vie était finie pour vous?
Oui. Mais vous savez, c'est un truc qui fait de telles vagues qu'avant de s'en apercevoir... Charlie Germain, un mutilé de guerre français, a subi exactement le même accident que moi. Il s'en est aperçu en revenant de la table d'opération. Et dans les heures qui ont suivi l'opération, il est sorti de son lit, il a descendu l'escalier, il s'est retrouvé dans le jardin de l'hôpital et il s'est écroulé sur un banc de désespoir. Et il a eu une réaction immédiate. Moi, j'ai eu une réaction 8 jours après, il y avait 4 mois que j'étais sur mon lit. Là-dessus, chacun a son tempérament, sa rapidité de réaction. Moi, j'ai réagi 8 jours plus tard et ça a été une explosion, ça a été un hurlement de bête, quoi. Hein.
Vous vous êtes révolté.
Ah, et comment, oui. Et je dirais que si l'homme ne se révoltait pas devant la souffrance, ce serait à désespérer de lui. L'homme n'est pas fait pour souffrir. Heureusement qu'il se révolte. Il y a de l'espérance dans la révolte.
Je voudrais vous poser une question un peu dure.
Allez-y.
Vous n'abordez pas le sujet dans votre livre où vous racontez votre expérience, votre cheminement. En avez-vous jamais voulu à ce camarade qui est un peu à l'origine quand même de cet accident?
Vous savez, il y a 40 ans que cette histoire s'est produite. Au début, je vous ai dit que j'ai cru que ma cécité était causée par simplement la présence d'un pansement. On ne reproche pas à un copain de vous avoir envoyé un mois à l'hôpital. Et puis je me suis aperçu que j'étais peut-être aveugle quand même. Alors je lui en ai un peu plus voulu. Et puis je me suis aperçu que je n'avais plus de main. Alors là, j'ai eu envie de mordre, bien sûr. Et puis, ce que j'ai vécu comme expérience sur mon lit d'hôpital a été tel qu'un jour, j'ai découvert que je lui avais totalement pardonné. Et ça, c'est une expérience spirituelle qui est très importante. Vous voyez, le copain, aujourd'hui, j'en parle, il ne m'a jamais écrit, n'est jamais venu me voir, mais je ne pense pas me vanter en disant que s'il venait me voir, on irait boire ensemble le verre de l'amitié. Je crois que le pardon est vraiment total. Alors, à l'analyse, vous savez, bon, jamais personne n'est exclusivement et totalement responsable d'un accident. J'ai ma part. Les officiers qui ne nous avaient pas instruits sur le fonctionnement de ces grenades ont leur part. La responsabilité n'est jamais à 100% sur le dos d'un seul. Et on aborde le sujet avec plus de décontraction une fois qu'on assume son état. Mmh. Il est évident qu'il faut l'assumer. C'est là le problème.
Mais justement, qu'est-ce qui vous a permis d'assumer cet état-là?
Bien, c'est là peut-être toute je dirais peut-être la richesse de cette expérience, vous voyez, c'est que il se trouve que ce problème de l'existence de Dieu me tourmentait. Avant d'être blessé, j'ai eu peur de la mort. Au fond, c'est aussi une éventualité. Et au fait, c'est quoi mourir? Et répondre à cette question, c'est répondre à une autre question, c'est quoi vivre? Parce que vivre, c'est un jour mourir. Si mourir, c'est retourner au néant, alors je vais faire une java à tout casser, je vais profiter de la vie, moi j'existe, et je vais me servir. Mais si Dieu existe, alors qu'est-ce qu'il attend de moi? Et je me posais le problème de l'existence de Dieu. Et puis l'accident arrive là-dessus. Et ce problème de l'existence de Dieu me poursuivait. J'avais toujours pas de réponse. Mais j'ai observé que dans l'Évangile, le Christ ne répond qu'à celui qui appelle. J'en ai conclu qu'il faudrait prier. Et comme l'aveugle de Jéricho, je me suis mis sur le bord de la route. Jésus, fils de David, prends pitié de moi. Ça n'était pas « prends pitié de mon infirmité ». Mon infirmité, c'était un problème mineur. Les toubib arriveraient à régler ça très bien. J'étais convaincu que j'en étais au stade de la connaissance de mon état, qui fait qu'il n'était pas nécessaire d'un miracle, je n'avais pas besoin de ça. Mais « prends pitié de ma condition d'homme ». J'ai faim d'absolu et je suis limité. Qui es-tu et qu'est-ce que je suis? Ce problème, je le méditais dans l'interpellation de Dieu.
Oui, mais tout ça, c'est parce que vous étiez d'une famille chrétienne.
Sans doute. Sans doute. Je veux bien l'admettre. J'avais reçu une éducation chrétienne qui m'avait déjà provoqué à une réflexion personnelle. Mais jusque-là, je peux dire que d'autres avaient eu la foi pour moi. Et je n'ai vraiment fait l'expérience de la foi que sur mon lit d'hôpital. Et j'aurais tendance à dire que c'est quand l'homme est pauvre qu'il est près de Dieu. Qu'est-ce qu'il y a de plus petit que Dieu? Allah est grand, disent les musulmans, et ils ont raison. Mais Dieu, c'est un enfant couché dans une mangeoire aussi. Hein? Et ça, il faut le découvrir. J'ai cru le comprendre sur mon lit d'hôpital, et ça a changé ma vie. Sur mon lit d'hôpital, j'ai découvert la réalité des béatitudes. Et ça, c'est quand même extraordinaire. Je suis aveugle, je n'ai plus de main. Et je découvre une qualité de joie que je n'avais jamais connue avant. C'est quand même pas le fait de devenir infirme qui m'a donné cette joie-là. C'est quoi? C'est quoi? Eh bien, c'est peut-être faire l'expérience que l'essentiel pour un homme, c'est pas d'avoir deux yeux et deux mains. L'essentiel pour un homme, c'est de découvrir sa finalité. Et sa finalité, c'est de découvrir Jésus-Christ.
Mais j'insiste. Il me semble qu'un garçon de 20 ans, fort, costaud, comme vous deviez l'être, vous êtes très grand, peut-être que nos auditeurs ne se rendent pas compte. Moi, je vous ai vu debout, vous êtes grand, vous êtes fort. Vous aviez 20 ans, vous me dites que vous réagissez en philosophe, que vous réagissez en métaphysicien. Et je ne sens chez vous, dans le discours en tout cas que vous me tenez, je ne sens pas le cri de la chair, je ne sens pas le cri de celui qui dit « Mais comment pourrais-je désormais jouir de la vie ?»
Oui, mais je... Rassurez-vous, ça c'est la conclusion, ce que je vous apporte là. Hein?
Bon.
Mais sur mon lit d'hôpital, avant de raisonner tout ça, j'ai pensé à la fenêtre ouverte, rassurez-vous. Et je me serais bien foutu par la fenêtre, mais il n'en était pas question. Il n'en était pas question, je pouvais même pas lever la tête de l'oreiller. Alors il fallait bien vivre l'aujourd'hui de ma vie. Mais comment est-ce qu'on peut vivre aveugle et sans main? Je suis prisonnier des autres à jamais, il n'y aura jamais d'amnistie. Ma prière a été une colère devant Dieu. Il paraît que vous êtes bon. Montrez-le. Mais si votre bonté, ça consiste aujourd'hui à me promettre une éternité de bonheur, vous pouvez vous le garder pour vous, j'en ai rien à foutre, moi. Je sais une chose, Je suis aux prises avec une souffrance surhumaine. Et je ne suis pas un surhomme. Alors si vous êtes bon, trêve de promesses. Hein, parce que moi, quand je me trouve devant un copain qui a mal, eh ben, je ne fais pas de promesses. Et j'ai pas la prétention d'être bon. Et il n'est pas venu me dire, attends un petit peu, Jacques, je vais t'expliquer. Non. Il n'est pas venu me dire, attends un peu, tu vas voir. Je n'ai entendu que le silence de Dieu. Mais le silence de Dieu est très éloquent. Devant l'absence de réponse et l'obligation dans laquelle j'étais de régler mon problème, je dis, mais ce qui doit être cruel dans une situation comme celle-là, c'est de ne plus être comme tout le monde. Au fond, il faudrait que j'essaye d'être comme tout le monde. Inconsciemment, je brûlais les étapes et je découvrais que l'infirmité marginalise et que la seule solution, c'est de se réinsérer. Et je me dis, mais il faudra que je me marie.
Ah, j'y venais, justement.
Il faudra que je travaille. Et c'était ça, le « lève-toi et marche ». Le Christ ne vient pas apporter une explication à la souffrance. Il nous invite à dire que celui qui m'aime prenne sa croix et me suive. Et je pense que ça a été ça, sa réponse. Il faudra que je me marie, il faudra que je travaille. C'est pas évident. Hein,
mais justement, c'est pas évident quand on est aveugle. D'abord qu'on peut pas voir les filles, n'est-ce pas? Et puis qu'on n'a pas ses deux mains. Et que, comment travailler à ce moment-là? Alors comment tout ça s'est passé? Vous êtes marié, vous avez 5 enfants. Ouais. Qu'est-ce que ça a voulu dire pour vous, justement, cette redécouverte d'une femme? Des femmes, à travers une femme aussi. Ouais. Et qu'est-ce que ça voulait dire d'avoir des enfants? Et qu'est-ce que ça voulait dire d'avoir un métier, une profession?
Ouais. Une femme, quand on est aveugle et que l'on n'a pas de main et qu'on a la prétention d'aimer une jeune fille, on aimerait bien avoir autre chose à lui offrir en partage. Cette jeune fille est sur mon lit d'hôpital. Il y avait, lorsque j'étais sur mon lit d'hôpital, il y avait une infirmière que j'aurais volontiers aimée. Mais comment oser lui proposer de partager ma vie? Et il fallait attendre. Attendre quoi? Attendre que j'ai quelque chose à lui offrir. Je n'étais qu'une épave. Et un jour, son frère est venu me voir, il me dit, dis donc, tu sais ce qui arrive à la frangine? Je dis, non, quoi? Elle est fiancée! Ça fait mal quand on apprend que celle que l'on aime aime ailleurs. Et bien sûr que le mariage est handicapé, c'est pas évident. Jusqu'au jour où j'ai rencontré celle qui est devenue ma femme.
Et c'est vous qui lui avez proposé, justement? C'est vous qui avez fait le premier pas?
C'est moi, c'est elle. Ma femme avait elle-même vécu une certaine expérience de la souffrance. Elle savait bien, elle aussi, que la souffrance, que la vie n'est pas une tarte à la crème et que c'est pas toujours drôle, la vie. Et l'expérience qu'elle avait vécue avait été pour elle aussi l'occasion d'un approfondissement de sa foi, la découverte de la réalité des béatitudes. Et partageant ensemble notre expérience, nous découvrions que la souffrance était entre nous un patrimoine commun qui nous rapprochait l'un de l'autre, alors qu'au contraire, la souffrance sépare. La souffrance rend sadique, cruel, alors que la souffrance assumée nous rapprochait l'un de l'autre. Et après tout, ce serait sympathique de vivre cela ensemble. Elle a accepté de se mettre dans les brancards à mes côtés et mon infirmité, je l'ai subie. Elle a accepté de la choisir.
Et vous avez eu 5 enfants.
Et nous avons eu 5 enfants. Je ne les ai jamais vus, non. Mais je n'ai pas besoin de les voir pour les connaître. Vous savez, quand un de mes enfants sourit, ça s'entend dans la voix. Et quand il a le cafard ou qu'il est triste, ça s'entend aussi. Et c'est ça l'essentiel.
Qu'est-ce que ça voulait dire justement d'être un père handicapé avec des enfants qui veulent jouer, qui ont leurs mains, qui ont leurs muscles, enfin,
c'est quelquefois embarrassant. C'est quelquefois embarrassant et c'est, ce n'est pas un avantage d'être handicapé, n'est-ce pas?
Non.
Mais il est évident que je ne pouvais pas répondre à leur appel autant que si j'avais eu mes yeux et mes mains. C'est évident, c'était un manque. Ce n'est pas un avantage d'être infirme lorsque l'on est père de famille. Mais ce n'est pas forcément un inconvénient. Parce que vous savez, ce que l'enfant attend, c'est d'abord d'être aimé. Et à la maison, ben, mes enfants ne me reprochaient pas d'être aveuglé sans main. J'étais devant eux un homme qui assumait sa vie, qui blaguait, qui rigolait, qui chahutait, qui allait au boulot le matin, qui revenait le soir, qui était comme tout le monde. Et je n'en faisais pas une histoire de mon infirmité. On n'en parlait pas entre nous. Alors j'étais comme tout le monde. Ce qui importe pour eux, c'est qu'ils vivent dans une ambiance d'une certaine sérénité. Un enfant, c'est pas fait pour vivre dans le drame. Mais le drame était assumé. Et on était au-delà du drame. Et un jour, je leur ai demandé, mais qu'est-ce que ça vous a fait d'avoir un père aveugle et sans main? Quelle drôle de question. Ils voyaient même pas que ça aurait pu en être une. Pourquoi? Parce que ça n'a jamais été un vrai problème. Bien sûr que je n'ai jamais pu leur dire, tenez, je vous emmène cet après-midi, votre mère est occupée, on va aller visiter le musée du Louvre. Ah, ça c'est sûr, je n'ai pas pu leur faire ça. Non, il y a autre chose.
Oui. Il y a autre chose. Et vous avez tenu aussi, pour être comme tout le monde, vous avez tenu à travailler et à ne pas être un mendiant.
Oui.
C'était important pour vous.
C'est très important. L'homme a en lui-même une puissance de création. Trop souvent, on va au travail pour gagner sa vie. Et je n'en ferai pas le reproche à ceux qui y vont pour ça. Mais moi, le problème était inversé. J'étais mutilé de guerre. En France, les mutilés de guerre bénéficient d'une pension qui a un taux d'invalidité aussi fort que le mien, est relativement confortable. Je n'ai pas de problème d'argent. Mais j'ai un besoin, c'est d'être utile à quelque chose. J'ai passé 6 ans, le derrière sur une chaise, à attendre quoi? À la mort. Ma femme elle-même pouvait quelquefois me dire, je suis fatigué, je ne pouvais même pas lui dire, va te coucher, je vais faire ta vaisselle. Il fallait... Qu'est-ce que je pouvais faire? J'étais un inutile. Et jusqu'au jour où le président d'une association d'aveugles m'a dit, viens, j'ai besoin de toi. Ça, on ne m'avait pas dit ça. Vous voyez, trop souvent, on va vers l'infirme en lui disant, qu'est-ce que je pourrais faire pour vous aider? Et il faut le faire, on a tellement besoin des gens valides. Mais il faudrait aussi aller vers eux en disant, dis donc, et toi, qu'est-ce que tu as à nous donner?
Oui, mais justement, c'est qu'on arrive justement au problème de la relation entre l'handicapé et celui qui ne l'est pas. Et je dois vous avouer que nous qui ne sommes pas handicapés, eh bien nous sommes très mal à l'aise et nous ne savons pas quoi faire. Nous pouvons avoir beaucoup de tendresse, nous pouvons avoir beaucoup de sympathie, ou parfois même nous pouvons être indifférents, mais que faire? Nous ne le savons pas. Est-ce que vous pouvez nous le dire, vous qui êtes handicapé? Est-ce que vous attendez de nous, concrètement?
Vous savez, je crois qu'il faut aborder le problème avec beaucoup de simplicité. Vous aborderez un aveugle d'une façon, et l'aveugle que vous aborderez le lendemain, il ne faudra pas l'aborder de la même façon, parce qu'il n'a pas le même tempérament, parce qu'il n'a pas le même âge, parce qu'il ne vit pas dans le même contexte. Si bien que, je crois que, je vais vous dire une banalité, il faut aimer. Il faut y aller avec sa simplicité en disant, moi je ne sais pas, mais si je peux vous être utile, hein, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Et progressivement, dans cet effort de bonne volonté réciproque, vous rencontrerez des handicapés qui vous enverront promener avec une certaine agressivité parce que c'est leur tempérament, parce que leurs relations avec les personnes valides ne sont pas équilibrés, ne sont pas saines. Bon, il y a tout, hein. Mais je vous souhaite de rencontrer des handicapés avec qui vous pourrez dialoguer, et progressivement, vous vous apercevrez que le handicapé a quelque chose à apporter et qu'il a besoin de vous. Et c'est dans cet échange qu'en fin de compte, nous nous enrichissons mutuellement. Comment? Allez-y simplement, surtout simplement. Mais n'ayez pas de méthode, surtout pas.
Il n'y a pas de truc.
Non, il n'y a pas de truc. Pour moi, il n'y a pas de truc. Maintenant, il faut considérer l'homme qui est là. Cet homme-là n'est pas là, cet handicapé qui est là dans ma vie, il n'est pas là par hasard. Il a quelque chose à donner, nous avons quelque chose à partager. Un homme, c'est un échange, c'est une communion, c'est un dialogue. Vous rencontrez un handicapé ? Alors, quelle est votre réaction ? Eh bien, allez-y simplement. Et mais... j'espère que le handicapé ira aussi, lui, simplement. Et vous verrez qu'en fin de compte, vous vous enrichirez mutuellement.
Donc il faut accepter d'être pauvre, si je comprends bien, et presque, je dirais presque d'accepter soi-même, qui avons tous nos membres, de nous considérer presque comme un handicapé au point de départ. C'est-à-dire quelqu'un qui ne sait pas, qui n'a pas la réponse, qui doit
pas
chercher...
forcément. Vous comprenez que ce n'est quand même pas un avantage d'être aveugle et sans main. Mais un homme ne se connaît pas s'il ne sait pas qu'il est un être limité et qu'il a vocation d'infini. Et l'infirmité est une occasion de s'en rendre compte. Si vous n'avez pas compris cela, vous êtes un handicapé par rapport à moi, car moi j'ai compris ça. Et ça, c'est plus important que les yeux et les mains. Et ça, je crois très fort à ça. Maintenant, il n'est pas nécessaire de devenir aveugle et de perdre ses mains pour s'apercevoir qu'au fond, entre votre ambition et votre réalité, il y a l'épaisseur d'un infini. Voilà le fond du problème.
Jacques Le Breton, je vous remercie.
Rappelons que Jacques Le Breton, diacre marié et père de 5 enfants, a publié « Sans yeux et sans mains » chez Casterman, dans lequel il raconte sa vie étonnante à la suite de l'explosion d'une grenade qui lui arracha les bras et le rendit aveugle à jamais.
Si ça peut vous intéresser, je vous dirai que moi-même, j'ai eu plusieurs chirurgies plastiques.
Pardon ?
J'ai eu moi-même plusieurs chirurgies plastiques. J'ai été brûlé au 3e degré, 25% du corps. Bon, j'en suis sorti alors. Et j'ai moi mes deux mains et j'ai mes yeux. Alors c'est...
Je ne pensais pas que...